Bonjour à toutes et à tous, à chacun, à chacune. Vous êtes sur Radio Grand Ciel, pas de doute là-dessus. En revanche, nous sommes aujourd'hui loin de nos studios chartrains de l'avenue d'Alire, dans le cadre prestigieux du Château des Vaux pour la fête des engagements de la direction diocésaine de l'enseignement catholique, alias la DDEC. La DDEC qui nous a confié, entre autres, le soin d'animer trois débats sur des thématiques chères à l'enseignement catholique. Pour le premier débat, j'ai la joie d'accueillir quatre invités. Il y a Emmanuel Leclerc, qui est écrivain, philosophe, prof de philo à l'Institut Saint-Pierre-Saint-Paul de Dreux. Je reçois également Camille Quetrin, qui enseigne à Saint-Pierre-Saint-Paul et qui mène des projets à bien sur l'art oratoire et les joutes verbales. Et j'ai deux, on dit quoi, des jouteuses, des artistes oratoires, vont nous le dire, c'est Garance et Laura. Merci à tous les quatre d'avoir accepté de participer à cette émission.
Fête des engagements, 12 mai 2023, une école de la relation, de la communion et de l'émerveillement.
On va sans doute parler là pendant la demi-heure qui suit de relation, de communion et d'émerveillement. Alors, je me dis parfois que le monde irait mieux si on donnait de temps en temps aux hommes des cours d'émerveillement. Emmanuel Leclerc, qu'est-ce que vous en pensez ?
Tout d'abord, merci pour votre invitation. Merci beaucoup. Je pense que le monde irait mieux, non pas si on s'émerveillait, mais si on apprenait à vivre en relation,
oui,
et donc en communion. À ce moment-là, on s'émerveillerait.
Oui.
C'est intéressant votre question, mais je pense qu'il faut tout d'abord définir les concepts.
Oui, ces trois termes, relation, de quoi parle-t-on ?
Voilà, la relation du latin relatio, qui a donné la narrer, raconter, qui souligne lier les choses entre elles. Donc la relation, c'est construire des liens entre les humains, c'est le plus important. Ici, en cette journée, nous tissons des liens, n'est-ce pas, des relations. La communion, c'est un concept théologique qui signifie communio en latin, qui signifie la mise en commun. Donc la mise en commun, non pas seulement de ce que nous avons, mais de qui nous sommes, et le partage. Et l'émerveillement, qui est ce plus beau mot, mais le plus difficile à vivre, comment s'émerveiller, qui vient du latin, qui a donné le mot merveille, qui en latin se dit mirabilia, qui veut dire une chose que l'on admire.
Oui.
Donc entrer en admiration devant quelque chose, devant quelqu'un, je crois que c'est le plus difficile.
Oui. Vous pensez qu'on a du mal, de plus en plus de mal à s'émerveiller ? Je pose la question, moi, Garance et Laura, est-ce qu'il y a des choses qu'est-ce qui vous, comme ça, spontanément, vous émerveille dans l'existence ?
Alors, je pense que l'émerveillement, c'est un sentiment qui est très fort et qui n'est pas donné à tout le monde. Je pense que on a tendance à s'émerveiller devant des choses qu'on aime et qu'on connaît. On ne s'ouvre pas suffisamment au monde et on n'ouvre pas suffisamment nos yeux à tout ce qui pourrait être beau pour nous. Après, c'est différents points de vue, mais je pense que l'émerveillement, c'est intemporel. Ça traverse toutes les époques. Ça dépend de d'où on veut aller voir, quoi, de si on ouvre notre esprit ou non.
Oui, ça c'était Laura. Et Garance, peut-être ?
Moi, justement, à la joute, j'ai dit un petit peu le contraire. Moi, je considère que quand on s'émerveille devant quelque chose, c'est vraiment quelque chose d'unique. Si on finit par s'émerveiller devant tout, devant la nature, devant toute la nature, devant toutes les œuvres, devant tous les hommes, on finit par perdre un petit peu la valeur de ce qu'on aime réellement, de ce qui a vraiment de l'attache pour nous. Mais c'est vrai que dans la société actuelle, peut-être que les gens ont du mal à s'émerveiller et ont des sentiments trop neutres envers certaines choses qui pourraient pourtant être magnifiques.
Ouais. Par exemple, le fait d'être au Château des Vaux, on voit le bâtiment, on s'émerveille, et puis finalement ça nous empêche peut-être de nous émerveiller de la petite maison dans laquelle on vit.
Non mais nos amis ont entièrement raison. Entièrement, comment, et c'est très très difficile, c'est vrai, de s'émerveiller dans ce monde où quand on allume la télévision, on écoute la radio, il n'y a que des choses qui vont mal. Comment arriver à s'émerveiller ? Je trouve que les arguments de nos amis sont très pertinents, parce que c'est à la fois le plus beau mot et la chose la plus difficile à vivre.
Oui. Oui. Camille Quetrin, vous, ce qui vous émerveille, c'est le talent de vos joutes, c'est quoi ?
Oui, c'est à la fois, comme vous le disiez, la petite maison dans laquelle on vit, et si on s'y sent bien, si c'est un foyer réconfortant, on peut s'y émerveiller. Et puis c'est aussi à l'extérieur de cette petite maison, les élèves avec lesquels on travaille. Mais c'est avant, mon ami Emmanuel Leclerc le disait dans sa conférence tout à l'heure, avant de travailler ensemble, on est dans une relation justement avec les élèves. J'ai toujours considéré mes élèves comme des êtres humains avant d'être des élèves. Et pour moi, c'est important de rentrer en relation. Alors, en communion, c'est un grand mot peut-être, mais je pense qu'on est aussi en communion quand les choses se passent de façon fluide et dans la bienveillance et l'entendement commun. Donc pour moi, c'est important, en dehors de mes cours, où déjà j'essaye de rentrer en relation avec eux, sans démagogie et en étant à ma place, bien sûr, et en leur laissant la leur, de créer des ateliers, que ce soit des ateliers oratoires, théâtre, éloquence, et donc ces fameuses joutes qu'on a imaginées, même s'il n'y a rien de nouveau à cela, avec mon collègue Monsieur de Manierville, pour que les élèves, justement, rentre en relation aussi. Moi, ce que je déplore dans notre société, alors peut-être c'est le manque parfois de facilité à s'émerveiller, mais comme les filles l'ont très bien dit dans la joute, ça s'apprend aussi, l'émerveillement, depuis tout petit. Je pense que emmener les enfants au musée, s'émerveiller face à des choses, mais même en balade, Laura parlait dans la joute de l'émerveillement face à un arbre qui pousse sans que l'on fasse rien dans la forêt, sans une graine amenée par la pollinisation ou autre, et l'arbre naît. Donc il y a quelque chose de merveilleux dans l'émerveillement. Et au-delà de ça, les voir s'épanouir en dehors de la classe où on essaye de leur faire apprendre des choses, mais pour moi, comme je leur dis souvent, le zeugma, peut-être que dans 2 ans, ils ne sauront plus ce que c'est.
Ah, c'est quoi le zeugma ?
Alors, le zeugma, c'est un lien entre... c'est une figure de style qui crée un lien entre deux éléments. Et alors tiens, justement, le zeugma, c'est intéressant parce que c'est un lien qui se crée entre deux éléments qui, d'emblée, n'auraient pas forcément de lien ensemble. Donc ça rejoint notre thématique de la relation et de la communion, où parfois nous rentrons en relation avec des gens avec qui nous n'avons pas forcément de lien. Et c'est aussi apprendre avec l'autre à avancer ensemble. Donc par l'art oratoire, on se rejoint. Et comme je le disais, ce que je déplore moi peut-être dans notre société aujourd'hui, même si encore une fois tout est à nuancer, c'est parfois notre faculté à rentrer en communication par deux monologues en face à face. Oui. Où finalement, nous sommes toujours, nous n'écoutons pas l'autre. On cherche simplement à répondre, à lui répondre, sans forcément vraiment essayer de comprendre ce qu'il veut dire, ce qu'il ressent. Et donc, on est comme ça, en semblant de communication, mais finalement, on reste dans notre quant à soi. Et ça, c'est ce que moi, en tout cas, je peux déplorer un peu, même si on essaye par ces exercices que les choses soient différentes et qu'on apprenne, que les élèves apprennent à s'écouter, et que chacun peut avoir des valeurs différentes, peut avoir des points de vue différents. À la fin de la conférence, justement, Emmanuel venait de me dire qu'une collègue était venue en lui disant qu'elle n'était pas forcément d'accord avec ce qu'il venait de dire sur le fait que nous ne devons pas forcément faire réussir nos élèves, mais simplement les aider à s'épanouir. Et elle considère peut-être les choses différemment.
Donc, est-ce que c'est pas complémentaire, parce que néanmoins, forcément, les élèves, ils passent le bac à la fin de l'année, il faut qu'ils intègrent éventuellement des écoles supérieures ou des facs, etc. Donc il faut quand même enseigner. Il y a une matière, j'imagine, à enseigner. Est-ce que, de toute façon, en philosophie, en cours de philosophie, vous abordez justement ces questions de relations? Vous êtes auteur, je l'ai dit, vous avez notamment publié des choses sur Paul Ricoeur. Est-ce que ça, c'est des choses qu'on retrouve chez Paul Ricoeur, justement?
Paul Ricoeur est un grand philosophe de la relation.
Oui.
De la relation, dans un de ses grands ouvrages, L'histoire, la mémoire et l'oubli, la relation entre la mémoire, l'oubli et cette histoire qui nous façonne, qui nous construit, c'est vraiment le lieu de la relation. Je reprendrai ce qu'a dit Madame Kéderlin. Je trouvais ça très intéressant. Elle a utilisé un mot que je n'ai pas utilisé ce matin dans la conférence, à savoir la communication. Et je trouvais ça génial parce que on est dans un monde où, pour la plupart, je ne fais pas une... Je dirais parole d'évangile, mais on entend sans écouter, on voit sans regarder. Donc on est dans des relations parfois complètement superficielles. Alors que je crois que ce mot de communication est fondamental. Savoir communiquer, savoir parler, savoir regarder, savoir voir. Savoir écouter, finalement, il y a un apprentissage.
Oui. C'est dû à quoi, le fait qu'on passe à côté des autres, finalement, sans les voir aujourd'hui.
Je crois qu'on passe déjà à côté de soi-même.
Oui.
Donc comment voulez-vous qu'on passe à côté des autres si on n'arrive déjà pas à être soi-même?
Alors ça, c'est ma troisième émission, ça sera sur l'intériorité, vous voyez. Mais là, on est au cœur du sujet, là.
Mais voilà.
Ouais.
Non, mais c'est vrai, on n'arrive pas à se... On vit dans une société, et nos amis pourront le dire, on vit dans une société, finalement, pour la plupart, on vit sous le regard des autres.
Oui.
Et on se dit, mais je veux pas faire ci, je veux faire ça. Quelle réflexion va avoir l'autre sur moi? Quel regard va-t-il avoir? Non, apprenons déjà à être nous-mêmes pour être vrais avec les autres.
Oui.
Alors là, il y aura une belle et une véritable relation.
Fête des engagements, 12 mai 2023, une école de la relation, de la communion et de l'émerveillement.
Ça vous parle, ça, Garance et Laura? Est-ce que vous avez le sentiment aussi dans votre génération que parfois, oui, on passe à côté des autres ou qu'on regarde l'autre sans le voir, qu'on a du mal à communiquer? On sait que vous êtes une génération, alors je dis vous, mais c'est vraiment au sens général, on passe beaucoup de temps, notamment sur les réseaux sociaux, les smartphones, etc. Est-ce que vous avez le sentiment d'être un peu seul parfois?
Le sentiment d'être un peu seul, non, parce qu'on voit la vie des autres tout le temps. On le voit sur les réseaux sociaux, oui. On ouvre Instagram et on voit la vie des autres, donc on n'a pas vraiment l'impression d'être seul. Je pense qu'on passe en partie à côté de nous-mêmes un petit peu, en essayant toujours de se comparer aux autres, et on a du mal à se connaître nous-mêmes, à vraiment savoir qui on est. Mais justement, c'est vraiment en s'exerçant, en exprimant nos opinions au quotidien, et par exemple par des exercices comme les joutes, où on peut vraiment apprendre à se connaître. C'est en exerçant, je pense, qu'on apprend.
Ouais. Est-ce que vous pourriez nous dire qu'est-ce qu'on entend par joute verbale, par art oratoire?
Alors, l'art oratoire, initialement, mon collègue Emmanuel pourra me contredire si je m'égare, mais c'est l'art de bien parler et de se faire entendre, pas forcément de convaincre. Moi, ce qui m'importe aussi, c'est de montrer que, on partage un point de vue. Le but n'est pas forcément de convaincre l'autre que j'ai raison, mais simplement de montrer que je peux penser différemment. Et cet art oratoire, il va passer, comme on le disait, par l'échange, par une réelle écoute de l'autre, pour apprendre aussi à faire avancer notre propre chemin de pensée, parce que parfois l'autre va aussi, sans forcément chercher à me convaincre, me faire avancer sur mon chemin de réflexion. Et ça passe par, bien sûr... le corps, avant tout aussi, la posture, l'ouverture à l'autre passe déjà par l'ouverture du, tout simplement, des épaules, du plexus. On parle du soleil intérieur avec ce plexus. C'est cette idée de s'ouvrir. Ça passe par... Oui.
Excusez-moi. Les attitudes corporelles peuvent avoir donc une réaction sur...
Tout à fait. Ça a été prouvé, d'ailleurs, d'un point de vue des neurosciences, que quelqu'un qui... Il y a cette fameuse posture qu'on apprend en classe, en tout cas, que je tiens à apprendre à mes élèves, la posture qu'on appelle la posture de Wonder Woman ou de Superman, c'est-à-dire qu'avant de rentrer dans un exercice oral, ça peut être à l'école aussi, avec des exposés ou autres. On prend cette posture.
Les bras en hanches et les poings sur les hanches.
Et cette ouverture, on le sait d'ailleurs, quelqu'un qui est replié sur lui-même, les bras ballants, les épaules fermées, va beaucoup moins avoir cette capacité à voir la vie sous un angle positif. Ouais. C'est, voilà, quand on se sourit à soi-même devant le miroir, il y a quelque chose qui se passe dans le cerveau, parce que le cerveau, on peut, comme je dis avec les élèves, le hacker, parce que lui, il ne fait pas la différence entre la réalité et la fiction. Alors, ça ne veut pas dire oublier ce qu'on ressent et mettre de côté ses émotions, mais simplement se donner du courage. Et la posture aide déjà à cela. Après, il y a toute la gestuelle autour. Il y a tout un travail de diction, bien sûr. Et puis, vous le disiez tout à l'heure, le choix des mots qui compte, qui est important, même si, voilà, notre langue... Je nuancerai aussi, on le disait tout à l'heure en off, sur le vocabulaire qui s'appauvrit.
Oui, ça, c'est une...
En tant que professeur de lettres, je nuance toujours en disant que notre vocabulaire évolue aussi, qu'il faut aller vers cette évolution.
C'est-à-dire, il évolue... Dans quel sens,
à chaque instant, le vocabulaire évolue. Des mots sortent du dictionnaire, d'autres y rentrent. On a pris des mots de nos sociétés hors de France. Certains ont pris, les Anglais nous ont pris des mots, rendez-vous et dans leur vocabulaire. Donc il faut aussi vivre avec ça. C'est comme tout ce qui nous entoure, les réseaux sociaux, vous en parliez tout à l'heure, l'intelligence artificielle qui est dans notre domaine d'enseignement. On pourrait le voir comme une crainte à avoir par rapport à ce qui pourrait être créé, ce que les élèves peuvent créer sans presque rien faire aujourd'hui. Est-ce que c'est encore de la création d'ailleurs? Mais je pense qu'il vaut mieux être partisan d'accompagner cela sans forcément freiner des quatre fers. Donc le vocabulaire, moi, évidemment, j'essaie de l'enrichir avec les élèves, de leur apprendre des termes qu'ils ne connaissent pas forcément, parce que plus on est capable d'avoir du vocabulaire, moins on va être dans la répétitivité et plus on va enrichir nos échanges. Mais en même temps, je ne suis pas forcément d'accord sur le fait de dire que nos élèves et nous-mêmes nous appauvrissons petit à petit nos échanges. Je pense que voilà, ce serait généralisé trop grandement, mais il faut évoluer aussi avec son temps et voir avec l'ancien et le nouveau comment on peut arriver à faire un futur langagier positif.
Emmanuel Leclerc, vous, votre avis là-dessus? Est-ce que j'ai eu tort de parler d'appauvrissement du vocabulaire?
Notre amie Camille dit des choses hyper intéressantes. Je rebondirai cependant parce que je suis un farouche défenseur de la langue française. J'ai eu l'occasion d'en parler avec Hélène Carrère-Dancos sur cette question. En fait, il y a un appauvrissement de l'usage que l'on fait des mots. Oui. Comme dit Camille, c'est vrai que les mots évoluent, la société évolue, donc il y a des mots qui rentrent dans le dictionnaire, il y en a qui sortent. Mais que faisons-nous de ces mots? Je dis souvent à mes élèves et mes étudiants, n'écrivez pas comme vous parlez. Et cette beauté de la langue française, nous ne pensons qu'avec les mots que nous avons, comme dit Bergson. Nous ne pensons qu'avec les mots. Et donc finalement, si j'ai du vocabulaire un peu plus enrichi, etc., ça me permet de pouvoir agrandir, élargir ma pensée. Oui. Donc à la fois il y a un épanouissement, il y a une ouverture des mots et il y a l'usage que l'on en fait.
La grammaire.
Ah oui, mm-hmm. Oulala, les fautes d'orthographe, Jésus-Marie-Joseph, c'est une catastrophe. Ah non mais c'est vrai, ah oui, on ne sait plus écrire. Et j'enseigne à Paris l'éthique en intelligence artificielle. C'est hyper intéressant avec le ChatGPT, avec tout ce qui est en train d'arriver. Mais là, j'ose le dire, il y a vraiment un danger. Je travaille avec des chercheurs aux États-Unis qui me disent ce qui va arriver
ici en France. Et qu'est-ce qui va arriver? Allez-y, prévenez-nous.
Ah ben, on est en train d'être robotisés. Nous devenons des robots. Et finalement, nous devenons des robots. Je veux pas être pessimiste, mais c'est réaliste. Et de ce fait, nous allons être actionnés. Voilà, on est des actions. On va dire, tu fais ci, tu fais ça. Et donc, on n'aura plus cette capacité. J'ai vraiment cette capacité de réfléchir. Ouais. De réfléchir vraiment. Et donc, on est quand même des êtres de relation, des êtres de raison. Et il n'y a pas de relation sans communication, comme dit notre ami Camille. Ouais. Il n'y a pas des êtres sans discussion. Il n'y a pas des êtres sans mots. Donc, finalement, je dirais, essayons de garder cette belle langue, belle langue française que beaucoup de pays nous envient vraiment. Ouais.
Quand on a des difficultés à se faire comprendre, qu'on n'a pas les mots, j'ai entendu des éducateurs spécialisés me dire ça. La violence ne tarde pas à surgir, en fait. L'agressivité, parce qu'on n'arrive pas à dire qui on est, etc. Donc, il est possible aussi que finalement, les explosions de violence aient pour cause, en partie bien évidemment, l'appauvrissement de la langue. Il y a tous ces enjeux qui sont autour de la langue.
C'est hyper intéressant parce que la violence des mots, c'est déjà la violence de l'attitude. Et quand je n'arrive pas à mettre un mot sur ma pensée, je vais l'exprimer d'une autre manière. Et je peux l'exprimer violemment, physiquement, dans une attitude. Et là, c'est encore pire. Oui. Parce que l'attitude, on ne dit rien, mais elle traduit tout. Oui. Et donc, ça fait réfléchir. Je ne sais pas ce que pensent nos amis, enfin, je ne veux pas faire de journaliste, mais nos amis sur cette violence des mots, enfin, sur quelle est la force des mots pour vous ?
Je pense, moi, que l'importance des mots... Enfin, les mots sont importants parce qu'ils nous représentent. La richesse de la langue française, elle est super importante parce qu'en fait, c'est notre culture. Et c'est important de la conserver, bien qu'il y ait des changements à accepter aussi parce qu'on évolue avec notre temps aussi. Mais les mots sont importants parce qu'ils nous permettent de nous exprimer. Après, il n'y a pas que les mots, il y a aussi différentes manières de s'exprimer, par la langue des signes par exemple, qui, je pense aussi, devrait être une forme de langage qui devrait être enseignée aux plus jeunes parce que ça commence à se démocratiser et on commence à en avoir vraiment besoin. Et je pense que tout ça, c'est important de le conserver, bien qu'il y ait des changements, parce que c'est important.
Est-ce que vous êtes lectrices toutes les deux ? Parce que là, on parle de l'oralité, bien sûr. On parle surtout de l'oralité. Mais le livre aussi est important. Vous, Emmanuel Leclerc, qui allait me dire le contraire.
Moi, je lis, mais pas énormément non plus.
Oui.
Moi, je pense que je suis lectrice, mais aussi, à notre âge, on est aussi très spectateurs. Ouais. Et on écoute beaucoup de podcasts, de vidéos. Et
la radio.
La radio, moins la radio. La vérité, c'est qu'on écoute moins la radio, mais qu'on apprend aussi à parler. Enfin, on apprend à écouter et ensuite à parler. Parler, c'est exprimer nos pensées. C'est vraiment ce qui se conçoit bien s'énonce clairement.
Oui.
Bah, c'est assez révélateur. Si on n'apprend pas à parler, on n'arrivera jamais réellement à dire tout ce qu'on ressent.
Fête des engagements, 12 mai 2023, une école de la relation, de la communion et de l'émerveillement.
Alors, je crois qu'il nous reste 3 ou 4 minutes, je me tourne vers Simon. Si j'osais, je vous demanderais bien peut-être de nous faire une toute petite démonstration de joute thermale, c'est possible ? Ah génial,
c'est possible.
Super, merci beaucoup Garance et Laura, on vous écoute. Religieusement.
sur la même chose que ce qu'on a vu. Eh bien, on a travaillé sur est-ce qu'on s'émerveille seulement de ce qu'on aime ? Donc déjà, rappelons ce que c'est que s'émerveiller.
Donc oui, avant toute chose, j'aimerais rappeler que l'émerveillement, c'est un sentiment d'admiration qui peut nous rendre perplexes ou fasciné, par exemple. C'est donc important d'ouvrir son esprit, d'apprendre à découvrir, à imaginer, à aimer, parce que tous ces instants sont ceux qui représentent l'humanité. S'émerveiller face à de nouvelles choses, face à des choses simples, face à la nature ou à des choses de notre quotidien, ce sont tous ces faits, en fait, qui érigent la pureté de notre âme.
Moi, j'aimerais parler des relations amoureuses, pour appuyer ou plutôt contredire un petit peu ce que ma camarade dit. Quand on est amoureux de quelqu'un, quand on aime quelqu'un, on s'émerveille devant cette personne. On s'émerveille devant sa beauté, ses qualités, ses mimiques, ce pourquoi on est tombé amoureux. Et on s'extasie aussi devant la connexion qu'on élabore avec cette personne au fur et à mesure du temps. Et ces sentiments, ils sont extrêmement précis. Et on les ressent rarement envers un inconnu, quelqu'un qu'on rencontre au hasard. Et ça montre bien que pour admirer, pour s'émerveiller, il faut bien aimer.
Je répondrai à ça que il est important aussi de noter que l'émerveillement, c'est un concept très large, c'est un sentiment très intense. La Bible nous le rappelle déjà. Elle nous dit que l'émerveillement, est l'origine est au commencement de tout. Dans la Genèse, par exemple, on nous dit que Dieu vit que tout cela était bon. Donc le Créateur lui-même ressent ce puissant sentiment. Et ça, c'est quelque chose d'important à comprendre, parce que la religion, voilà, c'est s'émerveiller des choses que Dieu a créées. Maintenant, voilà, tout est une question aussi de point de vue. Je redonnerai aussi mon exemple de l'arbre. À ce moment-là, vous voyez un arbre qui n'est qu'une simple plante. Moi, je vois une graine qui a des racines et qui prend forme, qui grandit. Et voir cet arbre évoluer sans l'aide de l'humanité, c'est ça qui fait qu'on arrive à s'émerveiller devant quelque chose à laquelle on ne s'attendait pas. Et donc, à ce moment-là, on peut affirmer que oui, l'homme est capable de s'émerveiller face à des choses qu'il ne connaît pas ou qu'il ne maîtrise pas.
Mais finalement, Laura, si on s'émerveille devant tout, même ce qu'on n'aime pas forcément au départ, est-ce qu'on ne perd pas la valeur des choses qu'on aime réellement ? Est-ce que si on s'émerveille devant tout, comme j'ai dit tout à l'heure, devant tous les hommes, devant toute la nature, les œuvres, est-ce qu'on ne mettrait pas finalement tout au même niveau et on en reviendrait à la même chose ? Donc ce sentiment d'émerveillement n'aurait donc plus rien d'unique, alors que pourtant, s'émerveiller, c'est quelque chose de rare, ça nous tient en haleine.
Cette joute oratoire était tout à fait admirable. Merci beaucoup, Garance. Merci, Laura. Merci beaucoup, Camille.
Merci à vous.
Merci, Emmanuel Leclerc. Est-ce qu'on peut peut-être conseiller un de vos livres à nos auditeurs et à nos auditrices ? Si on devait prendre un livre d'Emmanuel Leclerc, il faut prendre lequel ? Aïe, aïe, aïe.
C'est très difficile comme question. Oui. Je ne sais pas.
Peut-être un livre sur Paul Ricoeur ?
Oui, alors c'est ma thèse de doctorat. C'est la prudence chez Paul Ricoeur.
La prudence chez Paul Ricoeur.
Oui, aux éditions Edit Livres.
Merci beaucoup, merci à tous les quatre. Et puis poursuivez votre joute en off.
Merci à vous.
Merci.
Merci. Merci.